Le projet que nous portons, c'est aussi un projet pour la ruralité, un projet pour toutes nos campagnes.
La première chose que je dénonce, c'est qu'on abandonne les territoires.
Il y a une révolte au départ des Gilets jaunes contre l'écologie punitive.
Les espèces de Parisiens là, qui font 7 minutes de vélo par jour, ils ont l'impression de faire repousser la forêt amazonienne.
Il ne peut pas y avoir de pensée écologique sans une pensée sociale, qui est une pensée fondamentalement axée sur la mise en commun des ressources.
Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
L'ensemble de l'équipage de CG Nui espère que vous avez effectué un agréable voyage en notre compagnie et nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne journée. Lorient, prochaine gare.
En route pour le centre-ouest de Bretagne. Le train nous dépose à Lorient et il nous reste une quarantaine de kilomètres vers le nord pour rejoindre Priziac, petite commune de 1000 habitants où des amis se sont récemment installés pour créer leur éco-village. Leur expérience nous interpelle. Qu'est-ce qui les a attirés dans ce milieu rural? Pourquoi ici, en Bretagne, et à Priziac en particulier? Comment ont-ils été reçus par les locaux avec leur discours écolo et leurs projets alternatifs dans cette Bretagne traditionnelle que nous ne connaissons pas encore très bien? Ces considérations nous amènent à un questionnement plus général. Qu'est-ce qui fait que des initiatives alternatives réussissent à s'intégrer, ou pas, dans un territoire comme le centre-ouest de Bretagne?
Bon alors, où est-ce que vous habitez?
Mélan. C'est rural, il y a 1400 habitants, il y a tout ce qu'il faut pour les habitants. École, médecin, le dentiste, la pharmacie, la petite supérette. Et après, on est proche aussi de... du Fawet, vous avez des grandes surfaces, mais bon, je ne suis pas trop grande surface, mais je n'ai pas trop le choix. Et puis, il y a des collèges, il y a des piscines, il y a le cinéma, voilà. Et justement, j'habite à côté du Fawet, mais on est dans une petite commune qui n'a pas 3000 habitants, avec collège, piscine, cinéma. Et il existe encore des bourgs où il y a une dynamique tout autour. Parce que maintenant, on délocalise aussi tous les commerces pour faire des zones. Et on a cette chance au Fawet où on a les halles et d'avoir des commerces tout autour et d'avoir une dynamique autour. Et ça reste toujours un peu côté campagne. Et ça, j'aime bien.
Youn habite donc à Mélan. Elle nous a pris en autostop et nous emmène vers le Fawet, juste à côté de Priziac. On trouve que ça sonne bien breton. Les directions sur la route sont indiquées en français, mais aussi dans la langue locale. Autour d'une route relativement rectiligne, les paysages défilent. Nous traversons beaucoup de champs, de pâturages et quelques forêts. Les bocages ont été plutôt bien préservés dans cette région, ainsi que les grands chênes, arbres sacrés des Bretons. Marc Ledret, gérant du café-librairie L'Autre Rive à Berrien, nous en parle.
T'as des grands champs, quelques haies qui traînent, puis devant toi t'as la forêt, t'as des petits champs, des petites parcelles. Et puis au milieu t'as trois chênes. Trois énormes chênes, mais alors des chênes, tu vois, millénaires, quoi. Puis il y en a un qui est couché, puis les deux autres, ils sont debout. Parce que, dans le remembrement, ils n'ont pas tenu compte d'un fait culturel. Les chênes, c'est des arbres sacrés, ici. Et le mec qui coupe des chênes, il est mal vu. Moi, on avait des paysans qui avaient profité du nettoyage de rivière pour couper toute une rangée de chênes magnifiques pour faire du bois pour lui, tu vois, des belles planches. Il était fini, hein, via de la collectivité. Il avait coupé les chênes qui étaient... Et là, le remembrement s'est attaqué à trois chênes sacrés. C'était un secteur, tu sais, il y a des endroits comme ça, le chêne... Je pourrais faire un reportage sur le rôle des chênes et le druidisme et autres énergies qui circulent. Mais il y a des zones où on ne touche pas.
Un simple coup d'œil par la fenêtre nous suffit pour comprendre que l'agriculture est un secteur important sur ce territoire. Dans le pays du centre-ouest Bretagne, plus d'un quart de la population est salariée dans le secteur agricole. C'est presque trois fois plus que dans toute la région Bretagne et cinq fois plus qu'au niveau national. Comme bon nombre de territoires ruraux, le pays du centre-ouest Bretagne, ou pays du Cob pour les intimes, est très peu dense. On compte 32 habitants au kilomètre carré, c'est 4 fois moins qu'au niveau de la région. Moins urbanisé, moins dense et plus isolé que le littoral, le centre-ouest Bretagne est dans une situation socio-économique légèrement plus dégradée qu'au niveau de la région et de la France. Le taux de chômage y a beaucoup progressé entre 2012 et 2016, où il atteint finalement les 13,3%. Soit un point de plus qu'au niveau régional et trois points de plus qu'au niveau national. Le taux de pauvreté, quant à lui, est de 16%. C'est 5 points de plus qu'au niveau régional et 2 de plus qu'au niveau national. Enfin, globalement, le revenu des habitants et des habitantes est nettement inférieur aux moyennes régionales et françaises.
C'est vrai, on est sur un territoire qui est marqué en rouge sur plein de choses, sur la précarité sociale, sur lié à l'emploi.
Jean-Yves Remery, directeur de l'Union locale d'animation en milieu rural.
Donc c'est vrai qu'on est sur un territoire où le travail est très précaire. Alors ce qui est paradoxal, c'est qu'on est sur un territoire où il y a de l'emploi, mais c'est beaucoup de l'emploi précaire. Donc finalement, on a beaucoup de temps partiel non choisi. Enfin, vous voyez, donc voilà. Mais au-delà de ce que j'avais dit, enfin de ces marqueurs rouges, on est plutôt sur un environnement plutôt sympa où on a envie de revenir quand on a un peu côtoyé la vie citadine dans les grandes villes. Des fois, on se dit, finalement, on n'était peut-être pas si mal à Châteauneuf, à Corée, à Plonévé. Enfin, voilà. Et puis le gros problème après, c'est lié aux études supérieures où quand ils ont commencé à goûter un peu à la vie citadine, ils n'ont pas forcément envie de revenir sur le territoire. Alors ça, c'est vrai jusqu'à 30 ans. Et on a constaté qu'aussi, les jeunes, ils ont aussi... leurs racines sont là et qu'ils ont plutôt envie de revenir après, quand ils ont commencé une vie professionnelle, ou ils ont une vie familiale aussi, ils sont plutôt attachés à leur territoire et ils ont plutôt envie de revenir. Donc on voit après des mouvements inverses, c'est-à-dire que 30-35 ans, on a plutôt envie de revenir sur le territoire.
Kenan Guénolé, engagé dans diverses associations et activités sur le pays du COB, est un exemple de jeune vite revenu sur le territoire.
Je suis revenu ici pour différentes raisons à la base après mes études et finalement j'ai trouvé un service civique, puis un emploi, j'ai trouvé des activités, j'ai trouvé des colocataires, un village où j'étais bien. Donc c'est plutôt une histoire de cadre de vie et donc oui, si ça correspond à tes valeurs. Après il y a plein de gens ici qui sont engagés aussi dans tout ce qui est breton et choses comme ça et donc dans le maintien de la tradition et maintien des événements comme le festival Ficelle qui est fin août où du coup tu as toute une équipe de bénévoles. Et tu as beaucoup de jeunes qui sont dedans, en fait, engagés, et ça fait une partie de l'équipe, et ça fait une partie de renouvellement aussi. C'est que finalement, assez jeune, c'est quand même assez dense. Après, j'habite dans ces endroits qui sont... il y en a quand même plein, et en fait, ça reste assez dynamique. Mais du coup, souvent, à part quelques endroits, du coup, je trouve que c'est des fois plus isolé, quoi. Il y a quand même... Les gens sont un peu plus séparés, mais c'est quand même très dynamique. Je pense qu'il y a des endroits qui sont beaucoup plus morts que ça, en fait. Même en termes de densité de population, tu as quand même des maisons tous les 2 kilomètres, enfin... C'est pas si vite que ça non plus, on est quand même pas très loin des grosses villes, enfin c'est pas... Voilà. Et en même temps, nous, notre grosse ville, ce qui est quand même drôle, c'est que c'est Rostronin, qui est pas énorme, mais c'est la ville 3-4 000, je pense. Enfin, on est quand même sur un secteur qui a connu un gros coup dans les années 90-2000, et t'es quand même sur des échelles de population qu'on réduit de moitié, de machin, tu vas à des villes comme Saint-Nicolas-du-Pélem, où tu vois qu'il y avait une trentaine de commerces, et il y en a 3-4 maintenant, en fait. Donc c'est quand même mort, et Rostronin c'est un peu mort aussi finalement, il y a plein de choses, alors il y a des choses qui reviennent et tout, mais il y a quand même eu un gros creux, il y a plein de vitrines vides, donc c'est pas non plus, il n'y a pas non plus, ça pourrait être encore plus vivant en fait, il y a plein de gens qui sont partis. Le village d'où je viens, je crois que c'est monté à 1500-2000 habitants à une époque, et là on est entre 400 et 500 quoi. Donc il se passe des choses quand même, mais il faudra un nouveau processus assez long pour que ça refonctionne. Je crois qu'il y a toujours eu un fort réseau associatif, et ce qui fait... En fait, je pense que c'est la culture bretonne qui a ce côté-là aussi, qui du coup fait que les gens... Alors, elle est assez forte et du coup amène les gens à avoir plus de conscience de territoire, des événements vraiment réguliers.
Si on s'en tient aux définitions statistiques, les marqueurs semblent être assez défavorables. Pourtant, les gens s'installent, d'autres reviennent, restent, et ça bouge. Comment l'expliquer ?
Effectivement, il y a un dynamisme fort sur ce territoire. Moi, c'est aussi ce qui m'a frappé quand je suis arrivé.
Guillaume Diaz, responsable de la bibliothèque départementale de Plonévé-du-Fou.
Alors, je pense qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'histoire de la Bretagne et du Finistère, de la construction, de la culture, l'importance de la culture ici. Quelque chose de très prégnant qui fait que dès le départ, il y a eu des associations, dès le départ, il y a eu de l'aide sur ces questions. Dès le départ, on s'est tourné dessus. Les habitants aussi, qui sont quand même très concernés par ces questions-là. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui relève de la culture, en fait, du territoire, qui explique qu'ici, plus qu'ailleurs ou plus que dans d'autres territoires ruraux, il y ait vraiment à la fois des associations et des partenaires importants et à la fois un dynamisme important. De toute façon, ce qui fait commun permet d'avancer. Et donc sur ce territoire, effectivement, la langue bretonne et la culture bretonne étant très importants, permettent justement effectivement de se retrouver, de travailler ensemble, etc. C'est vrai aussi que par rapport à peut-être des années précédentes ou un temps un peu plus lointain, que je n'ai pas connu du coup moi dans ce territoire, mais la culture bretonne j'oserais dire redevient, ou en tout cas reste très importante. Même nous, à l'échelle de la bibliothèque du Finistère, nous avons des collections en breton et nous portons une attention toute particulière à ce que la langue bretonne continue de vivre et persiste, etc. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, oui, d'une identité commune qui permet de, à la fois de faire front ensemble et à la fois de proposer ensemble.
Apparemment, la culture bretonne a l'air importante. Ça n'est pas un scoop, mais pour voir à quel point, nous avons interrogé Anne-Laure Hamon, fondatrice avec son frère Kevin de la web-série Âme de Bretagne.
Âme de Bretagne, en quoi ça consiste ? C'est la Bretagne racontée par les gens en vidéo. Et donc le principe, en fait, c'est de raconter un territoire, en l'occurrence aujourd'hui celui de la Bretagne, à travers les paroles et les témoignages des gens sur différentes thématiques. L'objectif du projet, en fait, c'est en fait de donner l'occasion aux gens de s'exprimer, donc de donner en fait une sorte de scène ou de page blanche sur laquelle tous ensemble on puisse écrire une histoire ou une belle histoire sur le territoire. Et le but de ça, c'est en fait d'essayer d'arriver à mieux habiter ensemble et mieux s'habiter. C'est souvent ce qu'on dit. Le projet, il est parti d'un constat, en tout cas personnel, moi et mon frère, d'une prise de conscience qu'on avait étudié et voyagé un peu partout dans le monde et à chaque fois nos nouveaux amis nous posaient des questions sur la Bretagne et on se rendait compte qu'on n'était pas capable d'y répondre. Et donc on s'est dit, est-ce que c'est normal en fait de rien connaître de l'endroit d'où tu viens ou où tu vis ? Est-ce que c'est normal en fait d'être un peu hors sol entre guillemets ? Et donc du coup on s'est dit, nous on a répondu à cette question par non et c'est pour ça qu'on a souhaité faire le projet. C'est assez particulier, peut-être spécifique à la Bretagne ou en tout cas à certaines régions de France. On voit, je pense, un gap générationnel sur, mais plus lié à l'histoire finalement de ce qui s'est passé en France sur le 19e et 20e siècle. C'est-à-dire que moi je vois un gap et c'est aussi pour ça qui m'a animée à faire ce projet-là. Entre mes grands-parents qui, eux, ont intériorisé le fait que, par exemple, parler une langue régionale, c'est pas bien. Que s'intéresser à tout ce qui est culture ou tradition, c'est s'intéresser à quelque chose du passé qui n'est pas porteur d'avenir. Donc les générations plutôt de l'âge de mes grands-parents, ils vont plutôt être dans une logique de rejet, notamment vis-à-vis de la thématique linguistique. Parce que pour eux, c'est quelque chose qui n'est pas porteur d'avenir. Et pour les jeunes générations, en Bretagne, il y a eu tout un renouveau culturel dans les années 70, où justement des personnes se sont dit « Ok, j'ai un vide au fond de moi ». Et se sont ont voulu faire revivre finalement ces anciennes traditions en les mettant au goût du jour avec en électrifiant la musique, etc. Maintenant on retrouve aussi de la musique électronique. Il y a beaucoup de mélange en fait dans la culture bretonne. Donc en fait je dirais quand même les jeunes générations sont très intéressées, en tout cas en Bretagne, pas forcément dans un truc de tradition pure, mais en tout cas de savoir ce qui s'est fait avant sur le territoire et de le remettre au goût du jour. Et chez les jeunes générations, notamment par exemple ceux qui font de la danse bretonne, dans les cercles celtiques, il y en a pas mal qui nous ont remerciés de traiter le sujet de la danse bretonne d'un point de vue justement pas ringard. Parce que l'image qu'ils avaient l'impression de renvoyer ou tout ce qu'on leur disait dans la cour de récré quand ils allaient faire de la danse bretonne, c'était « Ah bah c'est nul, c'est ringard, etc. » Et ils étaient contents d'avoir justement un média ou l'opportunité de montrer que c'était tout aussi moderne et qu'on pouvait faire des choses très modernes en partant de racines culturelle dite traditionnelle quoi. J'ai l'impression que moi je fais souvent un parallèle entre ce qui se passe par exemple en Mongolie ou avec les Inuits ou des choses comme ça ou sur des peuples dits primitifs où on voit souvent qu'il y a un peu cette bataille entre des peuples qui ont vécu d'une manière dite traditionnelle pendant un certain temps et qui ont découvert la modernité. Et ensuite, ils ont cette problématique de les jeunes partent dans les villes pour faire cette vie moderne et voient les anciens comme des ringards, etc. Un peu cette problématique. En Bretagne, je ne dirais pas que c'est aussi accentué que ça parce que c'est pas, la Bretagne est dans la société française comme toutes les régions et il n'y a pas. Je ne saurais pas dire s'il y a une culture propre aussi. Je ne sais pas comment choisir mes mots parce que c'est peut-être pas forte, mais j'ai l'impression que c'est un peu ce phénomène-là de toujours de dire quand il y a des traditions, toujours tradition versus modernité. Et il y a des gens qui ont envie de sortir de cette dichotomie qui opposent. Et il y a des gens qui ont envie de dire bah non, c'est important de savoir d'où tu viens et de ne pas oublier tes ancêtres et de ne pas oublier qui tu es, entre guillemets. Et aussi de le remettre au goût du jour. Donc ça, il y a beaucoup ça en Bretagne. Et ça, nous, on essaye plutôt d'être justement sur cet espace-là. Aujourd'hui, il y a une remise en cause de la mondialisation et de tous les de l'ensemble des facteurs qui ont conduit au développement de ce système de société qui mène à vivre hors sol, pour moi, donc déconnecté des territoires et des habitants. Donc aujourd'hui, pour un jeune, c'est moins dégradant, je trouve, parce que les jeunes, ils sont plus justement dans la dévalorisation. En fait, pour les jeunes, aujourd'hui, l'ancien modèle, c'est le système actuel, en fait, en quelque sorte. Pour eux, c'est moins dégradant ce retour aux traditions, etc. Justement, au contraire, c'est très valorisant parce que ça va être les ingrédients qui vont leur permettre de construire les nouveaux récits et le nouveau système.
Ouais, 1m16 et l'autre 1m2.
Ouais, c'est ça, il n'y a pas masse de différence.
Les 60 cm qui restent. Et donc l'idée, c'est quoi? C'est de diviser, mettre 30 en haut, 30 en bas. Ou 60
en bas. Là, en fait, l'idée autour de 1m16.
Ouais.
Anouk, Pierre et Lee, Tim, Jesse, David et Lynn habitent ici depuis quelques mois. Ils ont fondé l'éco-village du Bel Air au bord de l'étang du même nom, à Priziac. Pierre Elie et Anouk sont en train de fabriquer leur toile de yourte, un habitat léger dans lequel le couple passe ses nuits. Une ancienne bâtisse leur sert de lieu de vie commun, c'est là qu'ils vivent, cuisinent, mangent, dorment et jouent. Ensemble, ils réfléchissent et mettent en place une façon de vivre plus écologique et plus collective.
En fait,
la bâche, comment vous allez,
mais tu sais, on change de bâche, oui. Et la bâche qu'on fait, elle est après, sur cette mesure.
Elle prévoit ça.
Donc on est obligé de le faire, en fait.
Waouh.
Mais sinon, on l'aurait jamais fait.
Et c'est vrai que ça va être quand même sacrément bien d'avoir des... Ah oui.
Aucun n'est originaire de Bretagne, et beaucoup semblent être arrivés là, un peu par hasard, y ont été bien accueillis, et s'y sont plus.
C'est pas un projet précis dans ma tête, c'était quelque chose qui me faisait envie.
Pierre Elie, habitant du Bel Air.
Je savais que je finirais dans un projet comme ça, même si j'aime pas trop le mot finir. Enfin, ça correspond pas trop, mais... Par exemple, je l'ai pas dit, mais entre les études et l'installation en Bretagne, on a fait un voyage en stop avec Anouk pendant un an à peu près. Et voilà, de par nos parcours et envies, on aurait pu se dire, on fait le tour de France en stop des initiatives écolo et alternatives, et on avait tous les deux cette envie-là de voir autre chose parce qu'on savait qu'en fait, on y serait toute notre vie après et qu'on y reviendrait. Et c'est ce qui s'est passé très vite après, quoi. Donc non, je ne l'ai pas mûri longtemps et en même temps, en plus, je ne fonctionne pas vraiment comme ça sur ça. Enfin, là, ça se fait quand ça doit se faire. Et puis, sinon, on aurait vécu plein d'autres choses. Mais voilà, pour l'instant, on vit ça. Et du coup, la Bretagne, non, c'est vraiment une opportunité de travail, on va dire, enfin, étude-travail, parce qu'Anouk est en alternance, donc on est arrivé là pour ça. Cette installation-là, et avec la rencontre avec David et Lynn, dont on avait entendu parler avant, mais qu'on n'avait jamais rencontré en vrai, tout s'est enchaîné à ce niveau-là aussi, avec leur pro. Donc c'est eux qui avaient lancé cette idée de monter un éco-village. Et pareil, encore une fois, ça correspondait beaucoup aussi à mes valeurs et à mes projets futurs, mais je pensais pas que ce serait aussi rapide. Et puis, ouais, ça s'est vraiment enchaîné. On s'est rencontrés mi-septembre et on a visité un terrain début octobre. Et c'est le terrain qu'on a acheté ensuite.
On est dans le potager, le début du potager.
Lynn, habitante du Bel Air.
Qu'on a commencé à créer en avril-mai. Donc c'est un peu mon repère. Et je suis assez satisfaite de ce que ça donne. Là, on arrive en hiver, donc ça commence quand même à certaines plantes à mourir. Mais on a encore un gros couvre-sol de courgettes qui ont donné tout l'été. On ne savait plus quoi en faire. On a les blettes, les choux qui commencent à bien pousser. Là-bas, on avait plein de concombres. C'est la première fois que je réussis des concombres dehors, donc je suis trop, 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 trop contente. Et on a aussi de la rhubarbe, des fraises. D'ailleurs, on va pouvoir même aller manger une fraise. Hop.
Ah,
fraises le matin,
ouais,
c'est plutôt cool.
Merci. Et on a aussi plein de plantes, plein de fleurs. Là-bas, t'as juste un parterre de fleurs, donc c'est des fleurs mellifères pour les petites abeilles, parce qu'on a des petites abeilles. Bon, déjà, tous les pollinisateurs sauvages, parce qu'il n'y a pas que les abeilles à miel. Et il y a des plantes médicinales, parce que ça, c'est aussi ma passion. J'adore les plantes médicinales et je me soigne principalement par ça. Donc, je m'intéresse beaucoup à ça. On s'inspire beaucoup de la permaculture au jardin ou l'écoculture. Et finalement, notre plus grande inspiration, c'est la nature. Et le système le plus abouti dans la nature, c'est la forêt. Donc, on s'inspire beaucoup de ça. Comment j'y suis arrivée là ? Je sais pas, je dirais par différentes choses, un peu comme la vie, elle amène à un point qui amène à un autre point et je suis arrivée là. Après, je sais pas s'il y a des points spécifiques qui diraient tiens, grâce à ça, j'en suis là. Plus, je dirais que quand je regarde pourquoi je suis ici, si je devais dire un pourquoi, ça a du sens.
De mon côté, et c'est un peu pareil pour Anouk, on considère ça du coup comme une chance de s'être installé dans le coin, dans le terrain sur le COB, quasiment un an avant de s'installer à l'éco-village. Et en plus, en travaillant avec pas mal d'acteurs locaux, avec la ressourcerie, on rencontre plein de gens. Et donc ça fait qu'on était intégrés au territoire d'une certaine manière avant de débarquer à Bel Air, quoi. Et moi, je trouve que pour moi, c'est quand même plus facile d'arriver à un endroit en ayant déjà un pied comme ça, même si c'est que le début. Voilà, pour le territoire. Après, localement, à Prisiac, je suis super content qu'on soit déjà en bon rapport avec le maire, avec les voisins. En fait, on aurait pu se dire on va essayer d'aller vers Meillonnec ou Trémargat, des coins où on sait déjà qu'il y a des alternatives et que c'est plus simple de rencontrer des gens qui ont les mêmes idées, même si c'est pas forcément mon idée première. Enfin, je veux pas faire ça. Mais et du coup, la Prisiac qu'on connaissait pas, c'était même un peu plus au sud que les coins qu'on avait l'habitude de fréquenter quand on était à Carré. Mais c'est génial de voir qu'il y a des voisins qui ont une petite épicerie bio juste à côté, que tous les voisins qu'on rencontre, ils nous disent c'est chouette votre projet. Enfin, en tout cas, ceux qu'on rencontre, ils nous disent ça. Il y en a sûrement qu'on ne voit pas et qui ont d'autres idées, mais on va les rencontrer après petit à petit. Et il paraît qu'on nous appelle quand même les Parisiens, alors qu'aucun de nous habite à Paris. Mais...
du coup, j'ai un petit habitat individuel qui est la caravane. Et sinon, il y a des lieux collectifs que je partage avec les autres habitants, puisqu'on est 6. Donc on a une petite maison de, je sais pas, je dirais 80 mètres carrés où il y a la cuisine, le salon, salle à manger, il y a une douche à l'étage, un petit dortoir, un bureau. Et donc on partage tout ça à 6 et ça nous permet de manger ensemble, cuisiner ensemble quand on a envie, parce que on ne s'est pas fixé de règles et c'est important pour nous de rester libre. En fait, l'idée, ça sera de construire des petits habitats sur le lieu. Mais en fait, on est en contact avec la mairie et la communauté de communes parce qu'ils sont en train de refaire le PLUI, donc le plan local d'urbanisme intercommunal. Et donc nous, on aimerait s'insérer là-dedans, parce que c'est important pour nous d'avoir des bonnes relations ici avec les élus. Et on est super bien accueillis, ils sont très partants pour notre projet, donc c'est vraiment chouette.
On quitte le Bel Air parce qu'on a rendez-vous chez un éleveur, à l'entrée du village. Sur le chemin, comme on a un peu d'avance, on s'arrête quelques minutes au New Age, le nouveau bar qui vient d'ouvrir à l'entrée de Prisiac. On demande au gérant comment il en est arrivé là.
Je suis venu en vacances ici plusieurs fois, plusieurs étés. Et donc j'ai rencontré du monde et puis j'ai aperçu l'opportunité de venir m'installer là. J'ai racheté un bar en fait, qu'une amie tenait et qu'elle voulait vendre. Elle m'en avait parlé du coup. Une amie que j'ai rencontrée ici il y a quelques années, et puis je me suis lancé sur le projet. Ça commence bien, doucement, les gens commencent à savoir que c'est ouvert, et à venir par curiosité, et revenir après. Les gens sont sympas, sont contents que le bar, parce que c'est le dernier bar du village, donc ils sont contents qu'ils vivent, parce que c'est un lieu de rencontre pour eux quand même. En un mois, trois semaines d'ouverture, j'ai déjà vu des clients se retrouver après un an et demi d'absence, alors qu'ils habitent à 3 km l'un de l'autre. Mais ils n'avaient pas lieu de rencontre.
Nous sommes donc chez Viviane et Jean-Michel, qui se sont installés à Prisiac en 1982. 5 ans plus tard, le couple s'engageait dans une activité d'élevage de pigeonneaux qui continue aujourd'hui. On en a profité pour leur demander leur avis sur l'éco-village du Bel Air.
Et du coup, vous êtes allé à leur porte ouverte
Ouais.
Est-ce que c'est le genre d'initiative que vous trouvez intéressante pour un territoire comme Prisiac? Est-ce que vous pensez que c'est des dynamiques qui peuvent revitaliser
J'espère. Moi, je leur donne bon courage. Ouais. Les jeunes,
j'espère que ça,
c'est pas facile.
Qu'ils vont réussir
dans
leur projet.
Aujourd'hui, quand nous, on voit notre métier, bien sûr, des investissements lourds. Je sais pas. Pour eux, comment ils voient les choses, s'ils ont des investissements lourds ou pas, parce que pour rentabiliser un investissement, il faut des rentrées d'argent, quoi. Il faut de la vente. Bon, eux vont peut-être faire des. Bon, ils parlaient de concerts, de différentes choses. Même un jeune qui voulait s'installer comme docteur, ça c'est. Bon, ce serait bien, hein. C'est dans les campagnes, ce serait bien.
Hein. Ouais. Et tout ce qui est écologie, bio, vous le voyez plutôt aujourd'hui comme une contrainte ou comme quelque chose de normal
L'écologie, il faut être
bah oui, oui, il faut aller vers là. Le bio, oui, peut-être pas. Enfin, la question qu'on se pose, est-ce que tout le monde pourra acheter bio? Certainement pas. Les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, le bio est quand même plus cher. Bon, bien sûr, il y a énormément d'élevage bio maintenant. Ça va peut-être aller en régressant, où les prix vont baisser. Plus on en a, plus les prix vont baisser. Bon, ça espère pour eux qu'ils gagnent leur vie, parce que c'est... Le bio, quand il y a un problème, les solutions, c'est assez dur à trouver, quoi.
Enfin, c'est sûr que la terre, je pense qu'il faut la préserver aussi, parce que, bon, il y a eu des abus. Maintenant, c'est quand même... Les agriculteurs, il faut quand même plus attention.
Il y a peut-être quelques cas, mais sinon, au niveau peut-être scientifique aussi de trouver des alternatives.
Ouais.
Je crois. Pour,
ils ont abusé. De toute façon, comme on voit les plastiques, bon, je trouve que c'est bien qu'on essaye d'arrêter ça. Quoi.
Bienvenue à Tirodou, une entreprise installée à Landelot, à une trentaine de minutes de Prisiac. Dans leur grand hangar, ils fabriquent des tiny houses, littéralement des minuscules maisons qui sont transportables sur des remorques. Stéphane nous fait visiter.
Donc en rentrant, on a la cuisine. Donc on a deux plans de travail, un à gauche et un à droite. Donc un plan de travail en chêne et en frêne. L'évier, le frigo, le four, les différents meubles et placards. Après, nous passons dans la partie salon. Donc on a une banquette avec deux coussins, deux poufs. Donc ils peuvent se ranger ici, tac, okay. Et ça peut faire un lit d'appoint. Et là, la terrasse n'est pas là, mais on a une grande terrasse qui fait tout le pourtour, qui rejoint le perron, avec une pergola pour abriter en cas de pluie. Après, on a le double escalier, donc en chêne, en épicéa. Et après, on a une mezzanine à l'étage, deux personnes, et une autre pour une personne. Et puis, le fond de la tiny, donc on a le coin salle de bain, toilette. Donc là, on a la douche, le lavabo, et on a le petit toilette qui se tire. Donc voilà, qui prend pas de place. Ça évite d'utiliser une pièce entière juste pour le toilette. Et avec différents rangements un peu partout.
En surface, c'est quoi?
En surface, on a le gabarit routier. Ouais. Donc on ne doit pas dépasser les 2,55 m extérieur. Après, la longueur, si on fait une tiny de plein pied, on peut aller à 7,50 m.
Pourquoi vous avez décidé de venir dans le pays du centre-ouest Bretagne, à Landelot?
Moi, je suis arrivé un peu par hasard et en Bretagne et dans le centre Bretagne.
Mathieu, salarié de Tirodou.
En Bretagne pour les études à Brest, et puis dans le centre Bretagne un petit peu dans l'idée d'un retour à la terre, un peu. Voilà. Quitter la ville et d'avoir un peu plus d'espace et un espace facile, en fait très accessible. Peut-être la première motivation, c'était vraiment avoir la possibilité d'avoir beaucoup d'espace pour pas cher. Voilà. Et donc, parce qu'on avait des projets de voyage, donc on voulait avoir une tanière qui soit simple, quoi, qui soit facile. Et puis, en fait, on est tombé un peu amoureux de ce pays, quoi, finalement, avec une forte activité, une forte activité associative, une forte identité culturelle. Et puis, avec des lieux, en fait, où on se dit, y a beaucoup de choses possibles et on est les bienvenus. Voilà, on s'est senti vraiment les bienvenus, on s'est senti vraiment être quelqu'un, quoi. Ne pas être juste là, en plus, un peu comme dans une ville ou dans un territoire qui est déjà surchargé en population. Non, là, on s'est vraiment senti accueilli et avec des gens qui étaient contents d'accueillir des personnes. Voilà. Et donc, du coup, de créer un projet ici, de créer quelque chose ici, bah, ça semblait du coup... c'est très intéressant de créer quelque chose dans un lieu où vraiment on sent que on est utile en fait, quoi. Mmh. Voilà.
Est-ce que vous pensez que vous étiez bien accueillis parce que votre initiative parlait aux gens? Est-ce que c'était juste une bienveillance générale?
Non, je pense que c'est une bienveillance générale, parce que quand on est arrivé il y a 15 ans, on n'avait pas du tout ce projet-là. On arrivait vraiment comme un jeune couple qui cherchait juste une petite maison pas chère à retaper et pour avoir une tanière, quoi. Et donc, on n'avait rien à vendre, quoi. Sauf peut-être voilà, notre... on n'avait rien de particulier à apporter en fait, à ce pays, quoi. Voilà.
On venait ici en vacances, tu vois, on arrivait du Cambodge au mois de novembre, en pleine tempête, ça nous faisait un bien fou.
Marc Ledret, gérant du café-librairie L'Autre Rive.
Passer de 40 degrés à l'ombre à la tempête aux îles d'Ouessant, ça nous ressourçait terriblement. On venait souvent en vacances justement en Bretagne, mais on a cherché un peu au sud, on a cherché... Il y a d'autres endroits qui nous plaisaient, mais on n'était pas complètement liés à la Bretagne, on n'avait pas encore imaginé le truc. Et puis on s'est trouvé, on a regardé les prix aussi des maisons, on avait un peu de sous devant nous, mais les endroits qu'on préconisait, on était vraiment très très pauvres. Ça faisait pas... Puis un jour, on s'est dit, où est-ce qu'on est bien quand on vient en France? Voilà, on s'est assis, on est en Bretagne. Alors là, on est venu avec l'idée de s'installer en Bretagne. Mais on a commencé sur Ponevé-du-Fou. Moi, je connaissais plus la zone en bord du canal, de par mes histoires de nettoyage de rivières, etc. Donc je connaissais plus ce secteur-là qu'un certain secteur. Je ne connaissais pas du tout cette partie de la Bretagne, le centre, Vouelgois, tout ça. Je ne connaissais pas du tout. Alors j'étais allé jusqu'à Ponevé-du-Fou, qui est à 20 minutes. Mais voilà, donc il y a une césure. Les pays ne sont pas les mêmes ici. C'est très, très fort. Et puis, on s'est installé. Donc, Cathy a trouvé un remplacement comme infirmière libérale. Elle est infirmière, elle, de formation. Donc, un remplacement sur Ponevé. Moi, j'étais au chômage. J'étais chômeur coopérant luxembourgeois. Donc, tout va bien. On peut tenir un an. Et on a travaillé donc à l'élaboration d'un projet, café-librairie en Centre-Bretagne.
Le choix de vivre à la campagne est motivé, mais celui de vivre dans le centre-ouest Bretagne est souvent lié à un concours de circonstances. Si l'installation sur ce territoire est parfois le résultat du hasard, l'accueil semble y être bienveillant, et ça peut expliquer pourquoi les gens restent, agissent et dynamisent le territoire. On comprend aussi que la culture bretonne joue un rôle essentiel dans le dynamisme local. Elle est mobilisatrice et force d'intégration des nouveaux arrivants. Guillaume Diaz, le responsable de la bibliothèque, l'a très bien résumé. Ce qui fait commun permet d'avancer. Et l'effet culture est d'autant plus fort que la jeunesse semble y être attachée, contrairement aux générations précédentes qu'on avait encouragées à s'émanciper de leur tradition bretonne, prétendument arriériste, au profit d'une certaine modernité. Deux visions s'opposent. D'un côté, des jeunes et des nouveaux arrivants qui réinvestissent un monde qu'on pourrait qualifier d'ancien, par le retour à la terre et aux traditions. De l'autre, des anciens, parfois réfractaires à ces nouveaux récits, qui vont à contresens des discours modernisateurs auxquels ils ont dû adhérer tant bien que mal. Dès lors, la question est de savoir si les nouvelles initiatives alternatives sont toujours bien perçues.
Alors nous, on n'a pas encore produit le volet futur. C'est dans ce qui nous reste à produire sur Âme de Bretagne. Mais on a déjà collecté des témoignages, par contre. Sur les thématiques du futur, j'ai aussi l'impression qu'il y a un mouvement un peu de transition, de plus en plus de gens qui se remettent à la ruralité, donc ce qu'on appelle un peu les néo-ruraux. Et notamment, j'ai l'impression que ça foisonne pas mal en Bretagne, parce qu'il y a aussi pas mal de gens que je rencontre qui viennent d'autres régions de France, notamment de Normandie, j'en ai vu pas mal comme ça, et qui viennent s'installer en Bretagne parce qu'ils retrouvent un terreau dans lequel ils se sentent bien, de solidarité sur le territoire et d'appétence pour ces questions de prendre soin un peu du territoire. Donc j'ai l'impression, mais après j'ai pas fait un tour dans toutes les régions, mais de ce que me disent les gens, qu'il y a aussi un peu un foisonnement sur ce côté-là.
On est dans une terre assez particulière, donc un terroir très très marqué, très très chargé, où les gens se laissent pas faire, quoi, traditionnellement, et puis ça continue, quoi. Puis l'intégration. Alors le problème, c'est que nous, on est un peu des rurbains maintenant, donc on s'est installé ici, on a trouvé ce lieu, on a ouvert le café librairie. Et puis on n'est pas les seuls, il y a beaucoup de gens beaucoup de jeunes en particulier qui cherchent à s'installer dans des schémas un peu alternatifs. Beaucoup de dans le secteur, tu as énormément de gens qui s'installent dans le maraîchage ou dans la culture bio. Voilà, donc le marché de Velgoat est un des marchés les plus bio du secteur. Il y a tous les producteurs locaux viennent vendre leurs produits. Tu trouves de tout, hein. Tu trouves du pain, des farines, des fromages, yaourts de chèvre, vache. Tu trouves de la viande bio. Tu trouves en bio, il y a vraiment, c'est un marché très 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 bio et c'est des producteurs locaux. Donc il y a aussi, c'est un secteur qui bouge aussi beaucoup sur ces questions-là. Donc c'est intéressant, quoi. Et les jeunes. Par contre, on est confronté effectivement. Alors il y a une espèce de césure, mais ça, je pense que vous allez le voir dans tous les domaines ruraux, avec les anciens, les gens d'ici, comme disait l'autre, qui sont d'ici, donc à partir de là, ils ont raison, et puis les autres, ils viennent nous emmerder, ils viennent nous dire ce qu'on doit faire, ça va pas. Et le fait que nous, on s'installe, à l'époque, il n'y avait rien. Il y avait Sylvie Bozoc qui venait d'ouvrir sa galerie d'art, la première galerie d'art, c'est Sylvie Bozoc, et nous, 2 mois après, on ouvre ce café en forêt. Il n'y avait rien d'autre, il y avait des bars classiques, Pochetronne, enfin bon, tout ça. Il n'y avait rien culturellement sur Velgoat. Et les mecs, bon, bien évident, quand ils nous ont vu arriver, ils ont rigolé. Ils ont dit, oh, des bouquins en forêt de Velgoat. Bon, c'est une ancienne crêperie, hein, donc c'était un lieu où on est stratégiquement bien situé. Et les mecs prenaient des paris. Et on a tenu. Alors maintenant, ça fait 14 ans, donc ça veut dire quand même que quelque part, on a tenu. On ne peut pas tenir qu'avec des touristes et tout ça. On peut aussi tenir qu'avec des gens du coin. S'il n'y a pas une frange des gens du coin qui s'y collent, tu ne tiens pas, il ne faut pas rêver.
Il y a aussi une divergence, entre guillemets, ou un espèce de conflit, mais je pense qu'il a lieu dans beaucoup d'autres territoires entre eux, et qui est d'autant plus prégnant en Bretagne parce que c'est une terre agricole, enfin une région agricole, entre des gens qui ont investi dans une agriculture dite conventionnelle avec des investissements assez lourds et avec un modèle qui a été bâti comme ça, et des néo-ruraux. Donc j'ai l'impression que parfois les deux populations peuvent ne pas forcément se comprendre ou avoir l'impression d'être en concurrence ou en conflit idéologique. Mais parfois, par contre, ça se fait aussi très bien. Et il y a des gens qui, dans l'agriculture conventionnelle, adoptent des pratiques raisonnées, raisonnables et changent plus ou moins leurs pratiques. Donc, ma pensée, elle n'est pas très précise, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une tension dans la société entre ces deux grands mouvements. Mais j'ai l'impression que cette dichotomie-là, c'est une tension qui est présente dans toute la société, notamment d'autant plus en Bretagne sur le sujet agricole, parce que la région elle a opéré une transition vers une agriculture conventionnelle dans les années 60, donc c'est pas quelque chose de très vieux, qui a contribué notamment, ça a concordé avec le mouvement de disparition culturelle, entre guillemets. Mais donc je dis juste que je pense qu'en Bretagne, la thématique agricole peut-être cristallise un peu plus ça parce que la région Bretagne est, il me semble, la première région agricole ou une des premières régions agricoles de France, qu'elle a opéré toute une transition vers l'agriculture conventionnelle dans les années 60, chose qui n'est pas hyper, enfin ça fait pas hyper longtemps, et que ça implique des choses, notamment en termes d'investissement, qui sont un peu complexes à changer. Et par ailleurs, il y a une conscience quand même qui est assez forte de ce qu'il faut changer en Bretagne, et une je pense que c'est la région, par exemple, qui collecte le plus ses déchets. Enfin, il y a tout un tas d'indicateurs aussi qui vont dans le sens où les gens, je pense, sont attachés à leur territoire et ont une intention positive vis-à-vis de celui-ci. Donc je dis juste qu'il y a une tension en ce moment entre un modèle dont on est un peu prisonnier et des gens qui ne veulent pas forcément mal faire, entre guillemets, et qui font juste leur métier d'agriculteur, quoi. Et une conscientisation du fait qu'il faille changer.
et avec des néo-ruraux qui viennent aussi d'autres régions et qui s'installent sur un modèle comme ça.
Si tu es né dans une cité HLM, je te dédicace ce poème en espérant qu'au fond de tes yeux ternes, tu puisses y voir un petit brin d'herbe. Et les mâles vont faire la part des choses, il est grand temps de faire une pause, troquer cette vie morose contre le parfum d'une rose. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos du monde animal, crie le bien fort, use tes cordes vocales. Pas de boulot,
pas de diplôme,
partout la même
odeur de zone, plus rien n'agite tes neurones.
Pas même le shit que tu mets dans tes cônes. Va voir ailleurs,
rien ne te retient.
Va vite
faire quelque chose de tes mains.
Ne te retourne pas
ici, tu n'as rien.
Et sois le premier à chanter ce refrain. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi
près d'une rivière,
écoute le coulis de l'eau
sur la terre. Dis-toi qu'au bout,
et
il y a la mer,
et que ça n'a rien d'éphémère.
Tu comprendras alors que tu n'es rien comme celui avant toi, comme celui qui vient, que le liquide qui coule dans tes mains
te servira à vivre jusqu'à demain matin.
C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Assieds-toi près d'un vieux chêne et compare-le à la race humaine. L'oxygène et l'ombre qu'il t'amène, mérite-t-il les coups de hache qui le saignent? Lève la tête, regarde ses feuilles, tu verras peut-être un écureuil qui te regarde de tout son orgueil.
Sa maison est là, tu es sur le seuil. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey, crie le bien fort, use tes cordes vocales.
Peut-être que je parle pour ne rien dire, que quand tu m'écoutes tu as envie de rire. Et si le béton est ton avenir, dis-toi que c'est la forêt qui fait que tu respires. Et j'aimerais pour tous les animaux que tu captes le message de mes mots, car un lopin de terre, une tige de roseau
servira la croissance de tes marmots, servira la croissance de tes marmots. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. C'est l'hymne de nos campagnes, de nos rivières, de nos montagnes, de la vie manne, du monde animal. Crie le bien fort, use tes cordes vocales. Hey!
Trio, l'hymne de nos campagnes.
Actuellement, un jeune qui veut s'installer ne trouvera pas de terre. Nous, on a eu des projets de gens qui voulaient s'installer, des gens, même des gens qui voulaient transférer, des gens hyper efficaces. La bergerie de Laz, c'était une nana qui bossait bien, a cherché des terres dans le coin, il n'y en a pas. On lui a coulé son dossier. C'est-à-dire que les chambres d'agriculture sont contrôlées par la FNSEA. Les dossiers ne passent pas. C'est-à-dire que les terres qui se libèrent ne vont pas sur des projets alternatifs ou, à la limite, ça va sur des extensions de champs d'épandage. Actuellement, tu n'arrives absolument pas à trouver de terres libres pour t'installer. Parce que les mecs monopolisent les terres. Et la Chambre d'agriculture ne valide que ces dossiers-là. En tout cas, celle de Morlaix. Tu vois ? Et actuellement, des jeunes qui cherchent à s'installer, il y en a plein, trouver des terres, niettes. Parce qu'ils se les passent entre eux. Et la FNSEA, contrôlant le système, le jeu, la commission d'attribution, bah, c'est eux qui y gèrent. La copine qui avait postulé pour des terres qui se libéraient ici avait déposé son dossier. On a su que son dossier n'avait même pas été présenté en commission.
Ce que je ressens, par exemple, chez un agriculteur conventionnel qui a l'impression de faire son boulot pour finalement nourrir les autres et finalement d'avoir un apport positif dans la société, le fait d'entendre dire et de se voir dire... Ben, en fait, t'es responsable des problèmes de la planète et de la pollution des sols. Alors que lui, il se bat pour finir ses fins de mois. Généralement, il fait son métier d'agriculteur par passion. A du mal à boucler les fins de mois. et a l'impression d'avoir comme mission dans la vie de nourrir les gens à travers un métier de paysan. Je pense que ça, c'est hyper violent à entendre. Et aussi, une fois que tu es conscient, après c'est moi qui projette, hein, mais une fois que tu es conscient que oui, il y a des problèmes environnementaux et c'est peut-être pas forcément toi la cause, parce que c'est pas toi qui as inventé les pesticides et que t'as été pris dans un système qui n'est pas forcément bon, ça veut pas forcément dire qu'il y aura plus de paysans ou que toi tu vas disparaître en tant que tel. Mais une fois que t'es pris dans un système, que t'as fait des investissements et que c'est difficile d'en changer, et je pense que t'as la violence psychologique de ce que les autres te renvoient en tant qu'image, donc ça j'en ai parlé juste avant, et deux, peut-être la violence psychologique au fond de toi, quand tu commences à devenir conscient que oui, tu as une mission dans la vie qui est nourrir les gens et tu veux faire le bien, pour autant tu utilises des choses qui sont contre le bien de la terre, entre guillemets. Je pense qu'il y a aussi peut-être parfois chez certains une espèce de dissonance cognitive à ce niveau-là. Et chez d'autres, je pense qu'il y a aussi toute une frange de personnes qui ne sont pas conscientes de ces enjeux-là et qui ne veulent même pas les effleurer. Je pense parce que ça pourrait aussi remettre en cause la position dont je parle et avoir un peu des contradictions internes difficiles à résoudre.
En sachant cela, on se pose une question. Comment faire pour surmonter les tensions qui peuvent apparaître face au développement d'idées nouvelles, d'initiatives alternatives?
Ça me rappelle un débat que j'avais eu, moi, à titre personnel, sur faut-il provoquer pour faire changer les mentalités ou faut-il, au contraire, faire changer les mentalités doucement, par de petites touches, par la culture, par exemple. Donc c'est vrai que c'est une question intéressante et je pense que la réponse réside dans les personnalités de chacun. Il y a des gens qui, malheureusement, si vous ne les bousculez pas un peu, ne vont pas prendre la mesure et ne vont pas changer. Et il y a des gens, au contraire, où il faut y aller en douceur et si vous les bousculez, ils vont être dans une position de refus et de non-acceptation en fait, de ce que vous leur dites. Donc, premier point au débat. Second point, les bibliothèques ont quand même l'avantage, par rapport à d'autres structures ou d'autres discours, d'être neutres, d'être censés être des lieux de débat, d'être des lieux pluridisciplinaires, où il y a tout. Donc cette neutralité de la bibliothèque lui permet d'être un vecteur, comment dire, important d'information justement, puisque nous n'avons pas vocation en fait à avoir un discours dominant, une idéologie, à faire de la censure, etc. Donc quelque part on est aussi plus crédible, ou en tout cas on est dans un positionnement qui nous aide à faire passer des messages. Après, la question est la médiation qu'on met autour, par exemple, d'une exposition, si on fait une exposition, les débats, etc. Il ne suffit pas non plus de donner l'information. Et c'est important aussi qu'on puisse en débattre, en discuter. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut aussi facilement faire et qui n'est pas forcément fait partout non plus. J'avais une professeure d'histoire qui disait que le plus long à évoluer, c'était les mentalités. Et que du coup, par exemple, avoir un discours sur la transition écologique, avoir un discours sur le développement durable, etc., ça prend le temps. Et les bibliothèques, justement, peuvent aider à ce que, dans le temps, à plusieurs reprises, par plusieurs actions, par plusieurs moyens, avec d'autres partenaires, donc multiplier aussi les discours, on puisse avoir une action un peu importante, quoi.
Alors, Tirécube, c'est une ressourcerie, donc c'est un endroit où les gens déposent des objets dont ils ne se servent plus, mais qui fonctionnent encore.
Anouk, habitante du Bel Air et salariée de la ressourcerie Tirécube.
Nous, on les trie, on les lave, on les parfois on les répare et après on les remet en vente à très peu cher, avec l'objectif qu'ils repartent dans le circuit le plus rapidement possible. Et donc l'objectif principal de la ressourcerie, c'est de réduire les déchets. Donc on a trois moyens de collecter, soit les gens ils nous apportent directement aux ouvertures des magasins, soit on va récupérer dans 5 points, dans 5 déchetteries du coin, donc tous les matins, et l'après-midi on fait des collectes chez les particuliers, justement des personnes qui n'ont pas de camion, ne peuvent pas se déplacer, ne peuvent pas porter, et qui doivent vider les maisons, ça il y en a plein partout, et du coup on va chez eux et on récupère gratuitement tout. Et ensuite ça arrive ici, on vide tout, là c'est le coin meuble à gauche, et après donc là à gauche il y a tous les stocks et à droite c'est le grand magasin, donc on a un grand magasin pour un peu tous les objets, les meubles, tout ça. Et après, un petit magasin qui est isolé, donc pour tous les objets un peu plus jolis qui ont besoin d'un peu plus de soins, comme les livres, des vêtements, tout ça. Et ensuite, il y a en mezzanine, là, c'est, on prépare tout pour Noël, parce que les gens n'achètent pas de Noël pendant l'année. Du coup, on met tout de côté et puis on fait une grosse vente de Noël où tout le monde peut venir acheter des boules à 10 centimes au lieu de 20 euros. Tu vois, c'est plutôt bien. On va laisser passer le, le caddie de vaisselle. Et après, tout là-bas, c'est le... c'est le coin des vélos, où c'est un bénévole qui vient réparer tous les vélos. Ensuite à droite là-bas c'est tout ce qui est vaisselle, donc ça c'est incroyable, enfin, on s'en sort jamais quoi, c'est toujours des tas et des tas, c'est hallucinant. Et à gauche c'est les vêtements, pareil, ça c'est gros chantier. Et ensuite il y a les livres, les cadres et la brocante, donc ce qui est marrant c'est que c'est vraiment un autre travail, le métier de brocanteur, donc on passe notre temps en vaisselle à regarder derrière s'il n'y a pas des signatures, parce que la tasse peut passer de 10 centimes à 30 euros selon s'il y a une signature. Donc et ça on le bah, je suis arrivée parce que du coup je voulais faire, enfin j'aimais beaucoup le milieu des ressourceries depuis longtemps, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de, enfin que du coup il y avait pas beaucoup de ressourceries qui allaient jusque là, il y avait pas beaucoup de vie, et je me suis demandé un peu qu'est-ce qui était mon métier idéal, parce que j'aime bien ce côté campagne et participer à redynamiser les campagnes, et j'aime bien comme secteur la ressourcerie, et c'est cette idée là qui fait que c'est en faisant que tu fais quelque chose de bénéfique, on va dire, pour l'environnement, sans devoir convaincre les gens, en fait. Ils s'auto-convainquent avec juste l'action que tu fais. Donc, j'aime bien ce côté-là. Et donc, du coup, c'est comme ça que j'étais amenée à penser à faire une ressourcerie ambulante en milieu rural. Il y avait aussi beaucoup cette démarche d'aller sur le territoire, de voir ce qui se passait. Et en fait, comme l'idée, c'est de créer des synergies sur le territoire en apportant la ressourcerie, c'est pas d'y aller tout seul comme un cheveu sur la soupe, c'est vraiment de aussi voir localement, avec les autres assos, comment ça se passe, comment on peut faire des choses ensemble. Et comme il y a tout à inventer, parce qu'on sait même pas à quoi ça peut ressembler une ressourcerie ambulante, ben du coup, c'est ça qui est génial. J'allais voir du coup les élus, les assos, les collectivités, les entreprises même, que ça pouvait intéresser, et on discutait de ça, une ressourcerie ambulante et tout ça, et en fait il y avait un gros engouement là-dessus. J'en profitais aussi pour faire un diagnostic de territoire, voir quelles étaient la population et tout, parce que je connaissais rien, aussi les dynamiques un peu locales, quel élu était plutôt favorable, plutôt défavorable, enfin les choses comme ça. Et en fait ça a permis d'avoir comme un ancrage un peu vraiment assez vaste sur le territoire, et sur et du coup dès qu'il a fallu faire des actions, ben c'était hyper simple parce qu'il y avait plein de contacts partout qui étaient déjà très motivés, et puis en plus ils avaient déjà eu un premier contact juste en parlant, et du coup ils étaient motivés pour passer à l'action. J'ai vu les élus, les assos, tout ça, ça donne des points de vue assez globaux, avec du recul quoi, on va dire, des fois au niveau historique ou des fois plus au niveau des mouvements de population. Mais ce qui manquait, c'était un peu aussi les paroles des habitants, et c'était très dur en fait d'essayer de les mobiliser. Moi j'apprenais en cours qu'il fallait faire des questionnaires, impossible, il y a des gens qui savent pas lire et écrire, il y en a qui parlent que breton, enfin je veux dire, et puis ça leur plaît pas, c'est juste pas funky quoi. Il y a qu'en ville où tu réponds à des questionnaires parce que tu sais, t'as l'impression que ça sert à quelque chose quoi, mais là c'était pas adapté. Enfin là il y a plusieurs choses qu'on apprenait en cours qui étaient juste pas du tout adaptées au territoire, sur comment rencontrer les habitants et avoir leur parole. Du coup j'ai fait ce que j'aimais bien faire, c'est-à-dire du stop, et donc j'allais à tous mes rendez-vous avec les élus et les assos en stop, et en posant à chaque fois des questions sur je disais que je venais de la ressourcerie, et du coup j'avais tout de suite leur avis, parce qu'ils savaient pas forcément si j'étais salariée ou bénévole vu que je suis jeune et tout ça. Du coup ils me donnaient direct leur avis, et en fait je me rendais compte qu'ils connaissaient beaucoup mais qu'ils y allaient pas forcément, enfin voilà, et ça aide pas mal à avoir aussi une vision. Là j'ai rencontré une cinquantaine de personnes comme ça un peu partout, donc ça quand même, ça donne un échantillon, et du coup, tu as une vision vraiment là du terrain, de comment les gens assez lambda voient l'activité, voient ce projet-là, et voient les dynamiques, ils participent ou pas du tout, enfin voilà, c'est marrant, et c'était intéressant quoi.
«
Alors que vous dire, ben là on est à l'étage, alors ça c'est un espace qu'on a ouvert pas tout de suite. Et on a créé cet espace pour justement se couper du bar et pouvoir faire tout un ensemble de choses qu'on avait du mal à faire en bas. Hein. Quand je faisais une conférence en bas et que le bar fonctionnait en même temps, il y avait des gens qui venaient pour boire un coup et la conférence, ils s'en foutaient complètement. Et c'est aussi donc l'espace conférence, débat et spectacle. On a une jauge d'une cinquantaine de personnes voilà, quand on dégage tout. Donc voilà, ça c'est un peu ça, les questions environnementales. La poésie donc est importante aussi, voilà, un fonds poésie qui est très développé et qui marche pas mal avec ce festival, donc tous les week-ends de Pâques. Et c'est aussi un espace d'exposition, donc une partie. Voilà ce que je peux te dire de tout ça. En France, tu as 70% des gens qui ne rentrent jamais dans une librairie. Ça c'est les chiffres de l'édition. Hein. 70% de gens ne vont jamais dans une librairie, c'est pas des lieux qu'ils fréquentent. Il faut savoir aussi qu'en France, tu as plein de gens qui ne vont jamais dans un bar. Parce que c'est un lieu de perdition, ou alors, voilà. Donc nous, on essaye, c'est une espèce de, voilà, de mélanger d'eux, mais on voit bien qu'il y a des gens qui rentrent, qui savent pas à quoi ils s'attendent, on les voit, ils dépassent pas la porte, ils restent dans le truc, ils repartent, parce que le livre les dérange, c'est un espace qu'ils connaissent pas. On est en monde rural, dans le monde rural, traditionnellement, les gens qui lisent sont des intellos, et c'est une perte de temps. Hein, sauf peut-être dans certaines zones, comme les Cévennes et tout, il y a une relation au livre qui est très différente, historiquement, mais ici, le livre, c'est des intellos, donc c'est pas des gens comme nous, et de toute façon, ça sert à rien de lire. Mais il y a aussi le fait qu'on ait de la bière. T'as des gens qui rentrent ici parce qu'il y a de la bière. Et les bouquins, ils les voient à peine, tu vois. Soit ils ont connu le livre quand ils étaient jeunes, ils ont oublié, mais ils le respectent malgré tout, parce qu'ils l'ont connu. Soit ils le connaissent pas, ça les inquiète. Par contre, ce qui s'est passé, beaucoup de gens, tu vois, la prégnance des bouquins dans l'environnement, il y a des bouquins partout. Donc le mec s'assoit, il boit sa bière, puis à un moment, il va prendre un bouquin, il va commencer à lire. Et là, on a eu pas mal de gens, et des proches est une porte d'entrée remarquable pour ramener les gens à la lecture. Alors le père des proches, oh qu'il est con, il mord de rire, quoi, tu vois. Et tu mets des proches à portée de la main d'un pilier de bar, t'es sûr qu'il va se remettre à lire, ça, il va l'acheter. Voilà, c'est ça, il faut provoquer ce genre de choses. Donc ici, t'as plein de portes d'entrée. On fait des soirées musicales. Voilà, alors session de musique trane, on en a fait beaucoup à une époque, mais on invite des musicos, on fait du théâtre, on fait des soirées contes, on fait des conférences, des formations, il y a plein de formations. On fait des débats, on invite des gens qui sont concernés, mais qui ne sont pas automatiquement concernés par le Café Fleury, mais que le thème intéresse, donc qui viennent quand même avec les potes. Et puis, voilà, c'est de provoquer l'intérêt d'un lieu comme ça, c'est les portes d'entrée. Il faut avoir plein de portes différentes, tu puisses à ce moment-là drainer des gens de différents canaux, mais qui à un moment où ils se retrouvent. Bon, tu vois les bouquins qu'on vend, on en vend beaucoup. Il y a des portes d'entrée aussi en livre. Pas se planter sur les livres. Il y a des bouquins très pointus que tu vas pas proposer a priori à quelqu'un qui commence à se poser des questions sur son environnement. Par contre, tu as des auteurs et tu as des questionnements qui constituent la bonne porte d'entrée. Le bon livre que la personne va lire au bon moment par rapport à son interrogation qui va lui dire oui, effectivement, peut-être qu'il y a moyen d'aller plus loin. Peut-être que là, voilà. Alors des mecs comme Rabi, c'est clair, les bouquins de Rabi, il y a des gens comme ça qui sont vraiment la base. Pour des gens qui se posent des questions, ça c'est les bonnes portes d'entrée, c'est ça. Et donc il faut les mettre bien en évidence à l'entrée, porte d'entrée. Et c'est des bouquins qui sortent énormément, qui vont être lus et qui vont poser questions.
Moi typiquement, en tant que personne, je suis... attachée à tout ce qui est transition sociale et écologique, c'est un sujet qui me préoccupe aussi en tant que jeune, quoi. Par contre, ce que j'aime pas non plus trop, c'est que j'ai l'impression que ça se fracture aussi beaucoup dans la société aujourd'hui. Les véganes contre ceux qui mangent de la viande, les agriculteurs conventionnels contre les néo-ruraux ou néo-agriculteurs, qu'on pose comme ça des cases et que du coup ça empêche un débat. Et ça pose certains sur des postures qui ne les incitent pas, selon moi, à changer de manière de faire parce qu'ils se disent « c'est moi contre lui, en fait ».
Pour moi, écologie, c'est accepter l'autre tel qu'il est, même si il n'a pas encore pris conscience de certaines choses.
Tim, habitant du Bel Air.
Quand il vient ici, il peut déjà, en discutant avec nous, apprendre à ouvrir un peu sa pensée sur certaines choses. Et ça ne veut pas dire qu'on a... compris tout, au contraire, parce qu'on apprend de la différence aussi, et parfois on est surpris quand on rencontre quelqu'un qui travaille dans l'immobilier, quand on fait du stop, et puis que cette personne elle nous amène un regard très différent sur l'économie, qu'on n'avait pas forcément vu, avec peut se dire oui, alors c'est pas bien de gagner du fric et puis machin machin, et puis en fait on découvre que les personnes derrière ont quand même une éthique et des choses qui sont un peu différentes, mais qui finalement qui font avancer le monde. Et moi je me questionne encore sur la volonté de transmission par exemple, donc je sais pas si est-ce que j'ai envie, est-ce que c'est une volonté de transmettre, ou est-ce que c'est ce qui se fait parce qu'il arrive en fait par les gens qu'on rencontre ou quoi. Personnellement j'ai un peu lâché la volonté à ce niveau-là, et j'ai juste envie de faire des choses avec des gens, et après que ces choses avec ces gens-là, enfin n'importe quelle chose, mais rencontrer des gens, manger une galette et j'en sais rien, faire un événement crêpe ici et puis rencontrer les gens, et par les échanges et les discussions en fait il y a des transmissions qui se font d'ailleurs dans les deux sens, on s'apprend tous mutuellement.
Que ce soit par les livres, à l'occasion d'une série vidéo, d'un troc de service ou encore au détour d'un trajet en autostop, la rencontre de l'autre laisse toujours une porte ouverte à l'échange et au partage. En s'installant de façon durable dans le pays du centre-ouest Bretagne, ces initiatives montrent l'importance du dialogue et de l'écoute des besoins réels du territoire et des personnes qui l'habitent dans la réussite et l'ancrage local d'un projet. Un dossier du magazine Transrural Initiative traite de cette problématique sous le prisme du phénomène de gentrification rurale, les conflits entre nouveaux arrivants et anciens habitants étant un thème récurrent lorsque l'on parle de ruralité. Rémi de Montaigne y explique que la gentrification n'est pas réductible à un conflit entre anciens et nouveaux habitants, elle est un phénomène essentiellement économique qui pose la question de la gestion des ressources et du partage dans une société où l'intérêt privé prédomine. Une nouvelle étape dans l'entente des différents intérêts locaux pourrait donc s'inscrire dans la gestion collective de ces ressources au travers de communs, c'est-à-dire en définissant des règles partagées d'utilisation et de gestion de ces ressources par et pour les communautés qui en dépendent. On espère que cet épisode vous aura peut-être donné l'envie d'aller vivre dans le centre-ouest de Bretagne pour y développer des projets tout aussi intéressants. Dans le prochain épisode, on ira dans le pays de Sungo, dans le Haut-Rhin, et d'ici là, portez-vous bien.